Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne à l'antenne de Radio Campus. Voici que démarre l'émission donc consacrée à l'université qui s'appelle Campus Lille Info, une émission qui dure une demi-heure chaque mercredi entre 16h et 16h30. À chaque émission, un thème qui touche bien sûr l'université de Lille. Et aujourd'hui, on va parler d'un dispositif qui existe, qui s'appelle un toit à partager, qui met en relation des étudiants et des personnes âgées. On va en discuter donc pendant cette demi-heure avec les personnes que nous avons invitées. On va faire un petit tour de table. Ils vont se présenter de gauche à droite. Étienne Bresse, tout d'abord. Bonjour, Étienne Bresse.
Donc Étienne Bresse, donc je suis enseignant-chercheur à la Faculté des sciences et à l'Université de Lille.
Je suis Pénélope, je suis étudiante à Sciences Po Lille en quatrième année. Et moi, j'ai habité pendant un an chez une dame qui avait 84 ans.
Hélène Kowalkowski, je suis chargée du logement intergénérationnel sur la métropole lilloise.
Elisabeth Charlon, je suis enseignante-chercheure retraitée et j'appartiens à l'Association de solidarité des anciens de l'Université de Lille.
Qu'on appelle ASA, A-S-A, c'est ça, hein?
Voilà, et qui a été créée à la Faculté des sciences.
Très bien.
Odile Christini, vice-doyenne formation à la Faculté des sciences.
Voilà. Donc, ce dispositif, un toit à partager, est-ce qu'il est déjà ancien et est-ce qu'il a déjà fait ses preuves, Hélène Kowalkowski?
Alors, l'association Génération et Culture, elle a été créée en 1981 à l'initiative de la CFDT, des Petits Frères des Pauvres, qui s'indignaient des conditions de vie qui étaient, pour les personnes âgées. Et donc, ils ont souhaité créer une association pour faire bouger les choses qui s'appelait au départ Vieillir Autrement. Et en 2009, on a créé le dispositif Un Toit à Partager, donc qui permet à des seniors d'héberger des étudiants en contrepartie d'un loyer modeste et de petits services au quotidien.
Voilà, donc les personnes qui veulent intervenir se manifestent pour compléter. Voilà, je vais donner tout de suite la parole donc à une étudiante concernée qui a donc testé ce dispositif et qui l'a vécu surtout. Une étudiante qui est aussi une expérience à l'étranger, elle va nous expliquer tout cela. Donc Pénélope, tu peux nous expliquer comment tu as vécu, quelle expérience et peut-être dans le pays où tu as été accueillie aussi, comment ça se passe?
Alors j'ai vraiment une très belle expérience de un an de cohabitation avec une dame du coup qui avait 84 ans. C'était sur Lille et on s'est vraiment bien entendu. Elle a un caractère très calme et moi aussi, donc ça passait bien. Et bon, on a des rythmes très différents, mais justement c'était assez spontané les moments qu'on passait ensemble. Bah un matin j'avais pas cours, je prenais le temps pour rester avec elle. Je l'aidais à, je sais pas, commander ses billets de train, je l'aidais à prendre ses rendez-vous de pharmacie. Mais parfois, c'était aussi plus informel. On allait se balader ensemble, on passait un repas ensemble. J'ai aussi fait connaissance avec sa fille et ses petits-enfants. Elle me partageait beaucoup de ses souvenirs. Ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu. C'est que... Elle m'a vraiment ouvert son cœur et du coup j'ai pu connaître sa vie personnelle, sa vie avec son mari, ses cousins. Enfin, j'ai vraiment eu beaucoup d'histoires et c'est des choses qui vont me servir pendant longtemps, des histoires qui vont rester en tête et qui vont me servir pour ma vie d'adulte aussi.
Voilà, faire presque partie de la famille en quelque sorte.
Ouais, un petit peu. Bon, après sur un an, c'est assez court quand même, donc c'est dur.
Et au bout d'une année, alors on regrette la personne comment on se projette dans l'avenir?
Je suis partie de chez cette dame parce que je pars faire mes études en Allemagne. Donc de toute façon, je pouvais pas rester. Et puis voilà, je pars vivre aussi d'autres choses qui me plaisent beaucoup. Donc je suis pas triste de partir, mais je suis plutôt heureuse d'avoir vécu ça, de m'être enrichie de cette relation. Et puis de toute façon, on reste en contact, je lui écris des cartes postales, on s'appelle de temps en temps. Et puis là, je vais aller m'inviter à manger chez elle, je pense.
Très bien. Alors, comment tu as fait connaissance de ce dispositif? Qu'est-ce qui t'a incité aussi à y entrer, à y participer?
En fait, j'ai de l'expérience dans le social, voilà, avec des personnes isolées, des personnes marginalisées. Enfin, c'est une cause qui me tient à cœur. Et j'avais envie de vivre autre chose pour mon année, pour l'année dernière, enfin, en termes de logement. Pour moi, ça n'a pas de sens d'aller me trouver un studio pour moi toute seule et d'aller habiter toute seule. Enfin, ça n'a vraiment pas de sens. Et alors qu'il y a des personnes qui ont de la place chez elles et juste besoin, enfin, envie d'accueillir quelqu'un. Donc, je me suis renseignée, j'ai tapé colocation intergénérationnelle sur Internet.
D'accord, d'accord. Voilà. Est-ce que Sciences Po, donc en quatrième année, c'est une expérience aussi qui peut-être être un plus, pas seulement relationnel, mais pour comprendre la vie des gens?
Oui, c'est sûr, c'est une belle expérience, super enrichissante pour moi. Et ça m'aide à comprendre, j'ai pu comprendre des choses de la société de il y a 30 ans et de la société actuelle. Qu'est-ce qu'une personne âgée elle a besoin? Quelles sont ses envies? Quel est son rapport à la politique? Bon, on n'a peut-être pas parlé de ça complètement, mais en tant que... Enfin, oui, je suis à Sciences Po, on s'intéresse à la société, on s'intéresse à la politique, on s'intéresse à être utile, à être un bon acteur de la société, donc voilà, mieux connaître une tranche, aussi, donc, mieux connaître une partie de la société, oui, c'est forcément intéressant.
Alors, on va revenir aux personnes donc, qui accompagnent de ce dispositif ici. D'abord, est-ce que ce dispositif existe un peu partout dans les universités ou pas? C'est une expérience assez
En fait, sur la métropole, on est deux associations à proposer ce dispositif, mais c'est un dispositif qui existe en France, dans toutes les régions et même dans peut-être un certain nombre de pays du monde. J'avoue que je connais plus la France, mais en tout cas, je pense que ça mérite à être connu.
D'accord. Donc, est-ce qu'on peut avoir une idée en local, ici, sur la région lilloise, hein, combien de personnes sont concernées par ce dispositif actuellement?
Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 50 hébergeurs et certains en prennent un, deux, voire trois étudiants. Certains recréent une vraie vie de famille, ils ont des chambres vides, ils se disent bon bah pourquoi pas, voilà, du moment que les étudiants s'entendent entre eux. Donc ça, c'est aussi une autre partie du travail, de faire que les binômes soient compatibles, mais aussi avec les autres étudiants présents. Et au total, cette année, on a fait une centaine de binômes.
C'est pas mal déjà, hein. Alors, qu'est-ce qui peut décider les personnes âgées? Parce qu'au départ, elles ont peut-être un peu d'appréhension. Comment on peut peut-être donner une image qui permette d'envisager cette possibilité sans trop de tracas au départ?
En fait, je pense que pour se décider, les hébergeurs ont besoin d'un vecteur de communication qui les touche et qui soit connu ou reconnu. Soit quelqu'un de la famille, ça peut être... Par le journal, par exemple, on a eu un article dans La Voix du Nord et c'est sûr que les gens font confiance. Ils se disent que si c'est mis en avant par La Voix du Nord ou par une autre radio, la télé, a priori, c'est sérieux. Mmh. Et puis, le voisinage aussi. Le fait d'avoir un voisin ou quelqu'un dans ses connaissances qui le fait, ça encourage beaucoup les autres à se lancer.
On peut avoir une idée des villes où, on va dire, ce dispositif fonctionne le plus ou les plus actifs?
Alors, ce qui est un peu curieux, c'est qu'à Villeneuve-d'Ascq, on a beaucoup, beaucoup de demandes, mais on a très, très peu d'hébergeurs.
De demandes d'étudiants?
D'étudiants, oui, de logements. Forcément, parce que c'est là qu'il y a le plus grand nombre d'étudiants. Ouais. Ensuite, à Lille, on doit en avoir une dizaine, mais on est beaucoup sur des communes un peu plus excentrées, où les gens, a priori, se sentent un peu plus seuls. Voilà. Donc, il y a la métropole proche, on va dire Croix, Lhomme, Lambersart, Marcq-en-Barœul. Mais on s'éloigne aussi jusqu'à Agenais, Sizouin, Comines, Fâche, Falampin.
Est-ce que ça peut décider des familles ou des personnes âgées à ne pas avoir comme presque option obligatoire l'EHPAD?
Oui, c'est une solution de maintien à domicile. Maintenant, il faut, à partir du moment où il y a une pathologie un peu... trop importante ou développée, il faut que la famille soit dans la boucle et que nous, on puisse avoir un interlocuteur à qui s'adresser s'il y a le moindre souci. Maintenant, il ne faut pas s'imaginer que c'est réservé à des personnes vieillissantes dans l'incapacité de faire des choses chez elles. Il y a aussi des hébergeurs qui ont d'autres motivations. Ça peut être la solidarité, Ça peut être l'envie de partager des choses, l'envie de se sentir moins seul. Ou je prends l'exemple d'un couple à Lille qui a choisi d'héberger cette année parce que la dame reprend des études d'espagnol à 60 ans. Et du coup, elle se dit que ce serait sympa de pratiquer à la maison. Donc, elle m'a demandé comme critère une étudiante ou un étudiant qui parle espagnol.
Voilà. Donc, pour l'étudiant, bon, là, on a donc un témoin qui est Odile, qui est Pénélope. Est-ce qu'il y a des cas différents de ce cas présenté par Pénélope, de gens qui, enfin, d'étudiants qui se retrouvent dans un espace où ça se passe plus ou moins bien? Comment on peut éventuellement quitter le dispositif si ça se passe pas bien? Ou est-ce qu'il y a un suivi du dispositif par des référents qui sont peut-être ici autour de cette table?
En fait, l'association, quand on forme un binôme, on fait signer une convention d'occupation à l'héberger et l'hébergeur. Et après, ça fonctionne un peu comme un bail, avec un système de préavis d'un mois, d'un côté comme de l'autre. Il y a une caution avec un état des lieux qui est fait par l'association à l'arrivée et au départ. Et puis, il y a un suivi au moins mensuel qui est obligatoire, on va dire, que nous, on fait systématiquement, sauf si on nous dit « bon bah tant que je vous appelle pas, c'est que tout va bien ». Et après, on peut être interpellé à tout moment, nous, pour intervenir pour une médiation ou juste peut-être recadrer un peu les choses et dire au départ, on s'était dit que c'est peut-être pas tout à fait comme ça que ça se passe. Est-ce qu'on peut repartir sur de nouvelles bases? Voilà. On a un taux d'échec très faible.
Alors, Étienne Braise, vous êtes enseignant-chercheur à la faculté de sciences de l'Université de Lille. Comment ça vous est venu l'idée de vous préoccuper de ce type de problématique?
D'abord, parce que je connaissais bien Hélène, qui était notre lauréate du prix de l'engagement pour l'Université de Lille, pour un engagement auprès des personnes âgées. Donc, on l'a un peu suivie. Et puis, là, je m'intéresse beaucoup au projet qu'elle porte. Et je regarde ce que je peux faire. Je connais l'association des anciens et je connais la faculté des sciences. Alors, l'idée, c'est de mettre en contact des anciens et des étudiants. Pour leur bien à tous.
D'accord. Vous êtes nombreux en local à être actifs dans ce réseau, je parle en termes d'organisation?
Il n'y a pas une organisation vraiment officielle. J'ai beaucoup de contacts qui sont intéressés par le dispositif. Alors, il faut parler aussi de la licence pro Cadovi, où les étudiants apprennent à s'occuper des personnes âgées, qui viendront donc à la conférence. Donc, je sais qu'Hélène, elle est diplômée de cette licence.
Donc, on n'a pas encore parlé de cette conférence. On va le faire maintenant. Donc, qui veut bien présenter le jour, l'heure et le contenu de cette conférence?
Cette conférence aura lieu le mercredi
19
septembre à 17h. Dans l'amphi 1.
L'amphi B.
L'amphi. Voilà.
À l'Iliade, cité voilà. Scientifique.
Voilà. À l'Iliade, voilà. Donc, le thème de la conférence, c'est un petit peu ce qu'on explique là, sauf que ce sera plus développé. Vous aurez 2 heures peut-être pour convaincre, c'est ça? 2 heures pour convaincre?
2 heures pour convaincre.
Et donc, qui est le public visé?
Alors, l'ASA a une commission qui s'appelle Commission Solidarité, avec un S. Donc, c'est posé la question des différents types de solidarité. Ça a commencé par les solidarités avec les pays dits du tiers-monde, mais aussi des solidarités ici. Et, par exemple, nous regroupons des personnes qui sont engagées au-delà de l'ASA, par exemple au Secours Populaire, pour se préoccuper des besoins alimentaires d'un certain nombre d'étudiants, notamment étrangers. Solidarité avec les plus anciens, c'est-à-dire des personnes qui ont une mobilité réduite. Et voilà un nouvel axe de préoccupation, la solidarité en matière de logement. Alors, on a été interpellé par l'association Un Toit à Partager, et l'ASA a décidé de servir de vecteur, puisque l'ASA, regroupant de façon assez ordinaire 500 personnes, eh bien, voilà une audience importante. Voilà la raison pour laquelle on a organisé cette cette soirée. Alors, on a été attiré au départ par la question des étudiants, de l'accueil d'étudiants Erasmus. Des étudiants Erasmus ont par exemple envie de parler français au-delà de leur bâtiment d'hébergement. Et donc, c'est pas leur truc d'être regroupés entre eux. Aller en famille, pourquoi pas. Et puis en discutant avec Hélène, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une série d'autres publics qui pouvaient intéresser les personnes âgées que nous sommes. Par exemple, notre université, enfin l'ancienne université des sciences, avait une préoccupation de la formation des adultes. Et nous savons qu'il y a des adultes qui désirent reprendre des études et qui ont des difficultés financières. Tout n'est pas finançable par Pôle emploi ou autre. Par conséquent, on pourrait renforcer là un axe politique de notre université et de l'université de Lille en jumelant un service élémentaire évident qui est celui de la reprise de formation, mais aussi un hébergement. Pourquoi pas ? Il y a aussi l'accueil d'étudiants par l'apprentissage. Eh bien, pourquoi pas aussi ? Alors, on a bien sûr des réticences de la part d'un certain nombre de personnes retraitées qui disent « Mon Dieu, partagez ma salle de bain mmh. !» oh. Être avoir quelqu'un dans mes murs, éventuellement lui faire à manger. Bon. Mais je pense que la solidarité, c'est aussi échanger, et j'ai beaucoup aimé le témoignage de Pénélope. Évidemment, partager, reprise d'études, eh bien, bon nombre d'enseignants de notre université sont intervenus en formation d'adultes, savent ce que c'est que de reprendre des études parce qu'ils ont vu les difficultés. Peut-être qu'on a des choses à se transmettre. L'offre culturelle, ben oui, on a dans l'ASA un certain nombre d'activités classiques pour une association de retraités, que ce soit la mosaïque, le maintien de la forme, la poterie, etc. Mais parler, échanger, transmettre, écouter. Ma foi, je pense que ce sont des verbes qui illustrent parfaitement la question de la solidarité.
Voilà, donc un toit à partager, hein, c'est comme on le disait, hein, de la cohabitation intergénérationnelle. Il y a donc cette conférence, hein, cette rencontre, on va dire, le 19 septembre à 17h à l'Iliade, qui est au centre de l'Université de Lille, Métro-Cité Scientifique, au-delà des public de l'ASA habituel, est-ce que c'est ouvert aussi à d'autres personnes? On peut peut-être demander donc à Odile Christini.
Donc nous, au niveau de la FST, on est en train de faire toute une communication pour attirer nos étudiants à aller voir cette conférence, leur montrer finalement tous les bénéfices que peuvent apporter l'engagement associatif et les encourager vers à s'engager et puis peut-être plus tard aussi à trouver un logement via cette association Un Toit à Partager. Donc c'est quelque chose hein, que la FST va mettre de plus en plus en place, le fait d'essayer de pousser les étudiants à s'engager. Ça leur permet finalement de développer un certain nombre de compétences qui peuvent ensuite être valorisées dans leur travail plus tard.
Donc après cette conférence, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a un lieu où on peut encore se rencontrer pour organiser des choses? Est-ce qu'il y a un registre d'inscription, un espace où on peut postuler?
Tout ça, on n'avait pas encore réfléchi. Actuellement, nous, on va pousser tous nos étudiants à venir participer à la journée demain du 13 septembre pour s'engager dans les associations qui vont être présentes sur le campus. Mais après, on est juste. Ça fait un an que la FST a été créée. Il y a une vice-doyenne, Céline Vivien, qui a démarré au mois de mars sur tout ce qui va être le thème de la vie étudiante et qui est en charge de développer justement tout ce qui va être l'engagement étudiant.
Si on va sur Internet et qu'on cherche dans un moteur de recherche un toit à partager, on tombe sur quelqu'un d'entre vous peut-être, ou ça, comment ça se passe après? Comment on distingue qui peut faire quoi pour ce dispositif?
Donc actuellement, nous, au sein de la FST, on a fait une communication par affiche pour mettre au courant nos étudiants, et on va réfléchir ensuite au dispositif à mettre en place.
Donc quand on dit FST, c'est Faculté des sciences et technologies de Lille. Très bien. Alors, on a donné un point de rendez-vous. On peut peut-être revenir à, donc, à Pénélope, qui a cette expérience. Elle nous a dit son expérience en France. Elle a aussi une expérience de l'Allemagne, me semble-t-il. Pénélope, comment ça se passe en Allemagne? Parce que nous, on connaît un peu le dispositif français. On sait ce que c'est l'EHPAD, on sait ce que c'est que le service d'aide à domicile aussi, pour certains. Là, on est sur un... quelque chose de complémentaire, on peut dire ça. Est-ce qu'en Allemagne, il y a une autre structuration de la société par rapport à la vie des personnes âgées, notamment?
Alors, l'Allemagne, déjà, elle est plus touchée que la France par le vieillissement de la population. Et donc, le gouvernement a mis en place un programme national depuis des années qui s'appelle Maison intergénérationnelle. Donc, maintenant, il y a plus de 500 maisons intergénérationnelles en Allemagne. Et donc j'ai fait un stage cet été dans une de ces maisons intergénérationnelles. Et c'est avant tout des lieux ouverts dans un quartier. Ça veut vraiment donner de la vie au quartier, et tout en étant axé sur l'intergénérationnel. Donc faire participer les enfants, les ados, les étudiants, les parents, et les jeunes retraités et les personnes plus vieillissantes. Les faire participer à des activités, mais surtout les rendre acteurs de cette maison. C'est vraiment un point central des maisons intergénérationnelles, c'est que la société civile prenne possession de cette institution et pour organiser des choses ensemble. Donc ça peut être des cours d'informatique que les lycéens vont donner aux personnes âgées, ça peut être des personnes âgées... la maison intergénérationnelle où j'ai fait un stage, la plus âgée des bénévoles, elle avait 93 ans. Mmh. Et elle organisait toutes les semaines un atelier jeux de société pour les enfants.
D'accord.
Et donc ça rend vraiment service au quartier, parce que ça soulage les parents qui ne peuvent pas garder leurs enfants tous les après-midi. Ça donne surtout un sentiment d'utilité aux personnes âgées. Et ça, c'est super important, parce que c'est ça qui maintient en vie, je pense.
Alors, nous, dans la région, on a sur l'île, par exemple, des maisons de quartier. Est-ce qu'on peut imaginer, dans la maison de quartier, un espace consacré à ces rencontres?
Je trouve que c'est assez similaire aux maisons de quartier, oui. Tout est imaginable, en fait. Enfin, faut juste prendre des initiatives. Tout est possible. Faut juste s'accorder ensemble, se rencontrer. Et je pense que les maisons de quartier, elles peuvent servir à faire... organiser la première rencontre, organiser un pique-nique, enfin n'importe quoi, un truc qui peut parler à toutes les générations, et ensuite c'est aux personnes elles-mêmes de se lancer, quoi.
Voilà, donc des initiatives possibles qui peuvent inspirer soit les directeurs, soit les adhérents, les membres des maisons de quartier, pourquoi pas, hein. Des foyers ruraux peut-être aussi.
Oui.
Voilà. Ben merci pour cet échange, cette expérience ici. Et puis, on va redonner donc le rendez-vous pour repréciser peut-être des choses pratiques. Hélène Kowakowski.
Oui, donc c'est le 19 septembre à l'Iliade, sur le campus de Lille 1. Et puis, moi, j'espère voir beaucoup de monde. Mon but, c'est pas de convaincre, parce qu'il faut que les gens se sentent prêts, mais c'est de diffuser un message et de se dire, si vous n'êtes pas concerné, peut-être que vos enfants, vos parents, vos grands-parents le sont. Et juste savoir que ça existe, parce que je me rends compte, quand les hébergeurs s'inscrivent, ils nous disent, si j'avais su que ça existait avant, je serais venue avant. Donc voilà, parlez-en autour de vous, et je pense que c'est pour la bonne cause.
Voilà, bien, nos auditeurs aussi, peut-être, de faire passer le message auprès de leurs parents, de leurs amis, pourquoi pas. Merci à toutes et à tous, et très bonne journée.